Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh ben bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. De ceux qui ne regarderont pas ce soir le débat. ceux qui veulent regarder, l'émission est rediffusée en podcast, donc pourront toujours s'attraper plus tard. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir Boris à la régie. Il nous est revenu.
Oui, je suis revenu, mais alors je patauge un peu dans les boutons.
Oui, c'est vrai que c'est nouveau, c'est la nouvelle console.
Et puis ça brille, alors tu comprends, j'ai envie d'appuyer sur tout.
Ouais.
Et c'est là que surviennent les drames.
Et puis accompagné donc de ton mentor, Bernard.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités.
Voilà, Bernard qui de son œil vigilant va surveiller que tu ne fasses pas de bêtises, Boris. Alors, nos invités, nous avons un invité qui est déjà venu souvent, avec plusieurs casquettes, il a plein de casquettes. Bah, souvent, deux, c'est quand même pas mal. Oui, il a une jolie casquette rose, c'est vrai. C'est le slogan pour la lutte de la communauté black, effectivement, américaine, noire, aux États-Unis, on va dire noir, parce qu'il faut dire noir, il paraît que c'est mieux black. Black, c'est...
À ce niveau, on dit africain...
Afro-américain.
African-American,
ouais. Voilà. Bref, donc c'est un militant, on l'a compris, Jean-Yves, dans tous les sens du terme, et pour tout le monde, pour toutes les causes.
Exactement.
Il a épousé toutes les causes.
Et... J'ai épousé quelqu'un, moi.
et surtout très actif au centre LGBTI et dans plusieurs associations qui sont présentes au centre LGBTI, dont le forum gay-lesbien. D'ailleurs, tu auras des nouvelles à nous donner.
Pas du forum, du centre, en fait.
Du centre,
en général. On fera en fin d'émission, tout à fait.
Voilà. Tu vas être la voix du centre. Et puis, nous avons avec nous, donc, Yad Crandell. Je ne sais pas si je prononce bien.
Crandell, oui.
Voilà. Alors, Yad, qui est donc de l'association Shams. Alors, qui est une personnalité historique de l'association Shams, parce que toi, tu es à la base de tout, à Shams, ou presque.
En fait...
On dira ce que c'est, Shams, après, évidemment.
Shams, en fait...
Tu l'as fondé. En Tunisie.
En Tunisie, oui. Mm. En fait, le départ, c'était à la base, bon, parlant de l'historique, c'était une page Facebook qui s'appelait à l'époque pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie, donc qui a eu un certain succès. On a été il y a eu des amis qui m'ont rejoint et on a reçu plein de messages de personnes en détresse. Donc, on a vraiment senti. Le besoin de créer une association qui s'occuperait de ces personnes-là, qui lutterait pour les droits de ces personnes-là. Donc quand je dis ces personnes-là, je parle bien sûr des personnes LGBTI, tunisiennes, ou minorités sexuelles, comme on le dit là-bas.
Shams, donc, est une association tunisienne.
Shams Tunisie, oui.
Voilà, donc, pour parler de Shams Tunisie, on parlera de Shams France, qui a aussi Shams France, sont deux entités différentes, on va dire.
Oui.
Mais Shams en Tunisie, la volonté, c'était donc de venir en aide aux personnes LGBTI nées de tunisiennes.
Tunisiennes.
Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes là-bas en Tunisie.
Il y a eu une forte répression.
Forte répression. L'homosexualité est pénalisée en Tunisie.
Oui, il y a beaucoup de. Il y a des abus qui sont pratiqués par la police tunisienne, en fait. Il y a les fameux tests anneaux qui sont toujours pratiqués, bien que condamnés par l'ordre des médecins tunisiens, mais qui restent...
Alors ça, c'est des tests qui existaient en France, mais au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on déterminait que par la forme de l'anus, la personne avait des activités sodomites. C'est comme ça? C'est sur cette base-là que
ça se passe. Oui, d'accord. Exactement, en fait. Et Pour continuer sur cela, en fait, l'article 230 qui interdit les rapports homosexuels en Tunisie date de 1913.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui est interdit dans cette pénalisation, dans cet article? C'est un acte sexuel en lui-même ou c'est les personnes homosexuelles?
C'est l'acte.
Hommes et femmes.
C'est l'acte qui est interdit, en fait. Ce sont les rapports qui sont interdits, non.
Et l'homosexualité féminine est pénalisée au même titre que l'homosexualité masculine?
Oui.
D'accord.
Donc, mais par d'autres... Ouais.
Donc cet article est ancien, 1913. Qu'est-ce qui se passait en Tunisie en 1913? Il y avait la charia, non? Pourtant, il ne me semble pas.
Il me semble que non.
Mais... Voilà. Donc tout n'est pas lié à la charia non plus.
En fait,
dans les pays d'Afrique.
Pour parler de cela, je pense que l'homophobie ou la LGBTI-phobie, en fait, n'est pas due... qu'à la religion. Oui, il y a le facteur religieux mais qui rentre en jeu et qui est bien présent, mais il y a aussi d'autres facteurs culturels, Parce que même chez des personnes laïques ou progressistes ou athées, il y a quand même de la LGBTI-phobie, en fait. Donc, ce n'est pas que la religion qui...
D'accord. Alors, moi, la question que je me pose, c'est par rapport donc à cette LGBTI-phobie donc, culturelle, c'est ce que tu dis. Il y a pourtant le monde Tunisie, Maroc, etc., le monde arabe en général... arabo-musulmans, comme on aime le dire, n'est pas exemple de littérature, dans un passé plus ou moins ancien, d'ailleurs, de littérature liée, à, par exemple, au rapport amoureux entre hommes, par exemple, et entre femmes.
D'où le nom Shams, en fait. Mmh. L'idée m'est venue pour donner le nom Shams. Quand j'ai lu Soufi mon amour d'Elif Shafak, en fait, qui parle de Shams de Tabriz et de Jalal al-Din Rumi. Donc,
qui sont un couple d'amants, c'est ça, un couple d'hommes
qui ont eu une histoire ensemble.
C'est lié au soufisme alors.
Oui,
d'accord. Donc, le soufisme, la part mystique de la religion musulmane. Donc la Tunisie pénalise. Alors si elle pénalise depuis 1913, donc tu penses que c'est pour une raison culturelle ou c'est à cause de l'influence d'autres pays comme la France, par exemple, qui était un pays colonisateur, quoique la France, c'est un peu particulier parce qu'elle n'avait pas vraiment une peine de l'homosexualité en elle-même. Mais par exemple, dans les pays d'Afrique, d'anciennes colonies britanniques,
oui.
Elles disent, nous, on a un article qui pénalise l'homosexualité, mais elle date de l'époque où les Britanniques, parce que l'homosexualité a été pénalisée jusqu'en 1967 en Grande-Bretagne, oui. Et disent, nous, notre article, il date de 1893, par exemple, à l'époque où les Anglais étaient chez nous, on l'a jamais changé, c'est tout. Donc pour eux, la pénalisation vient finalement de l'Europe, des colonisateurs. Est-ce que ce serait un peu le cas en Tunisie ou pas ?
C'est plus ou moins le cas. Donc après, il y a d'autres, comme je l'ai dit, en fait, il y a la religion qui va rentrer en jeu aussi, et que les interprétations qui évoluent aussi avec le temps, donc les interprétations de la religion musulmane ou autre. Donc aujourd'hui, on assiste, en fait, on en parlera peut-être plus tard par rapport à notre positionnement par rapport à la religion qui est assez... En fait, on aimerait garder une certaine distance, on en parlera.
Ouais. Vous n'êtes pas une association athée, mais vous êtes à religion, on va dire. À religion, si on peut dire. Comme on pourrait dire à politique, à religion.
Oui, on ne se positionne pas sur les questions religieuses. On va parler un peu de Shams France par rapport à cela.
Ouais.
En fait, quand on reçoit des personnes qui ont un problème avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, en fait, liée à la religion... On leur dit, il y a d'autres interprétations possibles. Mmh. Donc, vous pouvez voir telle ou telle ou telle association ou personne. Ou...
Oui.
Mais nous, on n'est en aucun cas capable de vous donner une réponse ou de porter un message religieux.
Alors, pourtant, je dirais, à tort ou à raison, le fait religieux semble devenir prépondérant un petit peu dans tous les actes et tous les faits qui se rapporte au monde, encore une fois, musulman. On va dire simplement, on dit le monde musulman. Qui est musulman, c'est une religion. Hein, voilà, donc, et on a l'impression que ces dernières années, la religion ayant pris une telle importance, dans la vie quotidienne des gens, jusque dans la vie quotidienne, parce que la culture arabe, pour beaucoup de gens, et c'est peut-être vrai dans un certain sens, est indissociable quand même de l'éducation religieuse. Beaucoup de personnes font Ramadan, par exemple. Même en France, je crois qu'il y a 80% de musulmans français qui font Ramadan, même s'ils n'ont pas une pratique extrêmement forte le reste de l'année.
C'est plus des traditions, je pense, parce qu'il y a des traditions, il y a la rupture du jeûne qui se fait en famille, il y a certaines traditions, c'est plus... on va faire l'équivalence... avec Noël, par exemple, chez les chrétiens ou autres.
Ceci dit, Noël, bon, il y a un côté sacralité qui existe encore. C'est vrai que c'est un côté commercial, etc. Mais pour les musulmans, Ramadan reste la rupture du jeûne et puis le fait de manger halal, justement. Voilà, c'est très important.
Oui, beaucoup.
Moi, j'ai une collègue qui me disait, on m'a fait manger un truc, et puis après, j'ai su que c'était pas halal. J'ai vomi, elle m'a dit. j'ai été vomir dans les WC, se faire cracher, quoi.
Mais beaucoup, en fait, se rappellent de leur religion pendant ce mois.
Alors, c'est pas le fait de la religion, d'ailleurs, en elle-même, mais religion, c'est toujours associé à régression ou à difficulté d'avancer dans une forme de progressisme, notamment pour les droits LGBTI. Mais ça concerne pas que l'islam, puisque là, l'église catholique ou les chrétiens en général, on va dire les religions en général, sont souvent considérées comme un frein au progrès déjà, mais aussi au progressisme tout simplement. Et comment se passe en Tunisie? Bon, on a vu la chute du régime de Ben Ali. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en Tunisie après? Est-ce que c'est une société... Sous Ben Ali, on avait l'impression que la Tunisie était une société un peu laïque, on va dire. Est-ce que le mot est trop fort ou pas?
Je pense que c'est un peu fort, en fait, de là à dire laïque. Je pense pas que la Tunisie soit laïque, ni aujourd'hui,
ni à l'époque de Ben Ali.
Même sous Ben Ali ou Bourguiba. Donc, après... Ce qui s'est passé, c'est que Ben Ali, il a essayé de limiter la religion, en fait, d'imposer des limites à la religion. Donc, et ça s'est mal passé parce que, après la chute de Ben Ali, certains se sont, on va dire, victimisés par rapport à la répression qu'ils ont subie.
Ouais. Et du coup, il y a eu un parti islamique qui est né en Tunisie.
Oui, Ennahda, le parti islamiste tunisien.
D'accord. À l'heure actuelle, le pouvoir de la Tunisie se compose comment? Parce qu'on ne connaît pas toujours très bien d'abord les institutions, parce que finalement, on est très franco-français. Alors, en Tunisie, comment ça se passe? Il y a une chambre, par exemple, comme en France, avec plusieurs composantes politiques.
Là, en Tunisie, aujourd'hui, il y a deux forces politiques qui on va dire... dirige le pays. Et y a d'un côté le parti au pouvoir actuellement de Béji Caïd Sepsi, le président, qui est Nida Tounes. Et de l'autre côté, il y a le parti islamiste Ennahda.
D'accord.
Et donc, en fait...
Est-ce qu'entre ces deux grandes forces politiques, il y aurait une force qui serait un peu plus progressiste, plus à l'écoute, en tout cas, des droits LGBTI? On va dire qu'Ennahda, par exemple, nous semblerait plutôt
certains,
peu...
Certains partis de gauche qui se sont prononcés sur le sujet, donc qui sont pour l'ouverture du débat. Il y a même d'autres... En fait, après, même le parti au pouvoir, Nida Tounes, en fait, c'est un parti où il y a plusieurs mouvements, en fait. C'est une coalition, donc... On ne peut pas dire que tout le parti soit contre...
Après, il y a la perception de la population par rapport au LGBTI, tout simplement. Ça, c'est important. Comment l'homosexualité, par exemple, est perçue, ou transgenre, ce sont deux choses différentes quand même, comment l'homosexualité, par exemple, est perçue par la population tunisienne, en règle générale?
Il y a, d'un côté, beaucoup vont sortir les arguments religieux et vont parler du péché... Et de l'autre côté, en fait, il y a beaucoup qui vont dire que c'est, entre guillemets, un phénomène importé d'Occident.
Ce qui n'est pas propre à la Tunisie, c'est propre à beaucoup de pays africains notamment, et aussi d'autres pays en Moyen-Orient, Proche-Orient, effectivement. Comme quoi l'homosexualité n'existerait pas à la base dans les pays, mais ont été importés par d'autres cultures. Ce serait l'Occident. Et ça peut devenir aussi un conflit entre les valeurs, entre guillemets, occidentales et soi-disant fameux choc des civilisations dont on parle. Auquel je ne crois pas personnellement, mais que certains aiment bien attiser comme ça. Ce serait donc une opposition, par exemple, avec l'Occident qui serait tolérant, qui aurait inclus dans ses racines, je dirais, quelque part, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, et puis les autres, ceux qui jettent les homosexuels du sommet des immeubles, etc., pour les... Bon. Je pense que est-ce que tous ces débats ont lieu aussi donc en Tunisie?
Ben en fait, là, on va revenir au sujet Shams Tunisie. Aujourd'hui, je pense que si Shams Tunisie et les autres aussi associations présentes, les associations LGBTI et LGBTI Friendly en Tunisie qui existent, si elles ont aujourd'hui réussi quelque chose, c'est bien l'ouverture du débat sociétal par rapport à l'homosexualité.
Donc elles ont pu le faire.
Oui.
elles ont pu le faire.
Avant, en fait, on n'osait pas en parler, c'était un sujet tabou, et aujourd'hui, on en parle et, à la télé, à la radio.
Et ça, c'est venu d'où ? C'est venu d'où ? Est-ce que Shams est arrivé parce qu'il y avait déjà un besoin qui existait au préalable ?
Oui.
Ou c'est Shams qui a initié ce mouvement, finalement, et les autres associations ?
Bah, comme je l'ai dit précédemment, en fait, la page qu'on avait créée, ouais, en fait, pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie, nous a fait sentir le besoin qui était vraiment présent. Bon, c'est normal qu'il y ait ce besoin-là, mais on ne pensait pas que c'était aussi présent. D'accord. Donc il y avait un manque, il fallait créer une association. Et les objectifs en fait, principaux au départ, c'était d'un côté l'encadrement et le soutien de ces personnes-là, et de l'autre côté, l'ouverture du débat et la lutte pour les droits des LGBTI.
Et par rapport à ce que tu disais, l'importation des valeurs occidentales, est-ce que justement la forme revendiquée, je dirais, de visibilité, peut-être, c'est une forme de visibilité aussi qui est demandée, n'est pas propre justement, par exemple, à la culture tunisienne ou à la culture arabe en général. La sexualité étant déjà basiquement, enfin à la base, un sujet très tabou, mm-hmm, dans beaucoup de religions, est-ce que... En gros, c'est vivre-heureux, vivre caché. On a parfois cette impression-là.
Oui.
Dans le monde musulman, par exemple.
Oui, bien sûr.
On peut parler de lui. Il n'y a pas que. Mais... Oui. Et le fait de se revendiquer une identité, une orientation sexuelle, c'est ça qui pourrait être peut-être considéré comme une importation de l'étranger. Une imitation des États-Unis, de l'Europe, etc. Est-ce que tout le monde a envie de revendiquer aussi ?
Je ne pense pas que ce soit les revendications En fait, je pense pas que ces personnes-là soient contre les le fait de revendiquer l'homosexualité, mais elles sont contre l'homosexualité et toute...
À la base.
Oui. Donc,
c'est l'acte en lui-même. D'accord. Et ça, culturellement, ça s'explique pas seulement par la religion, alors. Mais il y a quand même le côté religieux qui ressort.
Oui, bien sûr.
Le péché.
Oui.
Voilà. C'est dans le Coran, c'est un péché, c'est écrit dans le Coran.
Après, le Coran n'est pas très clair sur le sujet, mais on ne va pas rentrer dans...
Non, on ne va pas parler de ça. De toute façon, on dit qu'on... Shams n'est pas une association religieuse, on l'a dit. On ne va pas parler d'islam. Mais c'est vrai que, systématiquement, il est certain que lorsqu'on reçoit des personnes dans certains cadres, des personnes arabes, eh ben, tout de suite, le sujet religieux arrive. Parce que comme si l'identité était complètement liée... Arabe, l'identité était complètement liée à la religion, quoi. On a même l'impression qu'arabe et athée, c'est presque quelque chose qui n'existe pas, alors que ça existe. Voilà, exactement. Y compris arabe et chrétien, d'ailleurs.
Oui.
Voilà, ça on l'oublie. Donc, Shams est né en quelle année, en Tunisie ?
Donc, en Tunisie, l'Assemblée générale constitutive elle a eu lieu le 23 janvier 2015.
D'accord.
Donc, l'officialisation, c'était en mai 2015, et c'est là qu'est partie toute une campagne médiatique anti-Shams.
D'accord. Mais vous avez pu avoir l'autorisation, je dirais, carrément,
oui,
pour créer votre association.
Oui, en fait.
Il n'y a pas eu de coercition de la part du gouvernement, par exemple, en disant non, c'est interdit, on ne veut pas ça.
Il n'y a pas eu de réponse, et en l'absence de réponse, c'est une réponse positive.
Ouais.
Donc, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en décembre 2015, ils ont porté plainte contre l'association et ils ont...
Qui ça, ils
Le gouvernement.
Ah oui, carrément.
Donc, il a été décidé, enfin, il y a eu une décision du président du tribunal de première instance de Tunis de suspension des activités de l'association pendant un mois. Donc, directement, l'avocat de l'association, Mounir Batour, aujourd'hui président de l'association depuis cet été, l'été dernier, en fait, fait appel et après maintes tentatives, on a réussi à faire tomber, annuler la suspension.
Au niveau quotidien, donc pour les LGBTI en Tunisie, ça se passe comment ? C'est très difficile.
C'est très difficile. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti récemment, qui a été produit par Shams Tunisie, qui parle de la situation des LGBTI en Tunisie et que je vous invite à regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et...
L'utilisation, enfin, la pénalisation, tu me disais, c'est aussi de des peines de prison. On peut aller en prison pour homosexualité en Tunisie, c'est ça ?
Oui.
Et donc, James lutte aussi sur un plan législatif pour la dépénalisation, ni plus ni moins.
Oui, comme toutes les autres associations présentes.
Vous avez des soutiens intérieurs, extérieurs ?
Oui, oui. Donc, intérieurs par la société civile, par les associations, pas que LGBTI. Et de l'autre côté, il y a certaines ambassades aussi qui nous ont soutenus, dont l'ambassade américaine avant Trump.
Oui, d'accord.
Et donc d'autres ambassades.
Et ça, les soutiens extérieurs, est-ce que pour le gouvernement tunisien, c'est pas une forme d'ingérence aussi de la part des autres gouvernements ?
Je pense
que ça peut avoir un poids quand même en Tunisie.
Aujourd'hui, ils sont en situation très compliquée en fait, parce que ils veulent donner une nouvelle image de la Tunisie post entre guillemets révolutionnaire, enfin post révolution, et le fait de médiatiser tout ce qui se passe, tous les abus qu'il y a envers cette communauté là, ce groupe là, il leur donne plus ou moins une mauvaise image, chose qu'ils aimeraient éviter en fait. Donc,
est-ce que, à ton connaissance, il existe d'autres associations en dehors de la Tunisie, dans des pays du Maghreb comme le Maroc ou l'Algérie, des associations de droits LGBTI pour la défense des droits LGBTI ?
Oui, il y a au Liban, il y a au Maroc, je citerai le collectif Mali avec qui on entretient de bonnes relations. D'autres, il y a le collectif Aswat au Maroc aussi, il y a d'autres associations et collectifs.
D'accord. Qu'est-ce qui peut amener à envoyer quelqu'un en prison pour homosexualité en Tunisie ? Quelle procédure ? Je veux dire, comment on rentre dans la chambre des gens, puis on dit vous êtes couchés tous les deux dans le lit. Deux garçons qui se tiennent par la main, c'est courant, alors.
Il n'y a même pas besoin.
Et qui s'embrassent dans la rue, qui se font la bise, c'est assez courant.
C'est la présomption suffit. Ouais.
C'est soit le flagrant délit, enfin, ils les arrêtent en flagrant délit, soit le fameux test anal, soit la délation.
Ouais.
Et la fouille sur les téléphones portables.
D'accord. Et tout ça, c'est des mesures.
Lors des enquêtes.
C'est appliqué. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en Tunisie, il y a des personnes qui sont détenues pour faits d'homosexualité.
Il y a eu plusieurs arrestations, dont dernièrement l'arrestation d'un cinéaste tunisien avec son amant.
Et est-ce que la question transidentitaire est traitée de la même façon ou différemment ?
Pour l'instant, les associations essayent d'en parler, mais
il n'y a pas beaucoup peut-être de sources.
C'est assez méconnu, on va dire.
Ouais. Parce qu'ils peuvent aussi associer ce qu'on a fait pendant très longtemps, le fait de s'habiller en femme, par exemple, ou inversement, une femme s'habille en homme, prend les vêtements du genre opposé pour tomber sous pour être un témoignage, enfin une preuve d'homosexualité, je dirais. C'était le cas pendant très longtemps. On a confondu souvent identité, orientation sexuelle.
Il y a une méconnaissance totale de tout ce qui est identité de genre et orientation sexuelle. Donc, même les lesbiennes, en fait, elles ont un problème de visibilité. Ouais, ouais.
En Occident, on n'a pas trop de leçons à donner parce que tout ça, il y a 40 ou 50 ans en arrière, c'était à peu près la même situation en Europe. Hein, donc,
40 ou 50 ans, tu remontes 10 ans en arrière. Hein,
par rapport à la question transidentitaire, parce que c'est vrai que la question transidentitaire émerge maintenant, mais il y a beaucoup de personnes, y compris dans les mouvements militants LGBT, on va dire, donc du coup, qui ne connaissent pas vraiment la problématique transidentitaire. Et moi, si je connais la thématique, pourquoi ? C'est parce que j'ai reçu et j'ai parlé avec beaucoup de personnes dans le cadre de l'émission qui m'a amené à connaître cette thématique.
D'ailleurs, on en parlera davantage peut-être lors de la partie Shams France.
Voilà.
Excellente
transition, parce que toi, tu es né en Tunisie, donc tu as grandi en Tunisie, tu as fait tes études en Tunisie, maintenant tu es en France.
Oui.
Depuis ?
Depuis septembre 2010.
2010.
Quelques mois avant.
Avant le printemps, le fameux printemps arabe. Voilà. Et du coup, tu es fondateur, un des fondateurs donc, de Shams Tunisie, mais en France, tu as fondé aussi Shams.
Je suis cofondateur avec Yassine, en fait,
en France.
Djabel Nawar, et il y a d'autres membres fondateurs en fait, qui étaient avec nous. Mais l'idée est partie, on en a parlé avec Yacine, en fait on est les deux coprésidents de l'association, donc on en a parlé et on a senti le besoin aussi en France. Donc on a commencé à rédiger les statuts, à donner une forme en fait à l'association qui devait être créée. On avait pris contact avec le centre LGBT Île-de-France qui était un de nos premiers soutiens en fait en France. Après, il y a eu aussi Amnesty International qui nous ont prêté leurs locaux pour l'Assemblée Générale Constitutive le 14 juin 2016. Et de là est parti Shams France. Donc après,
d'accord.
Pour Shams France...
Ouais, ce qu'on va faire, on va écouter on reviendra à Shams France après, on va écouter un petit morceau de musique pour faire un interlude de la transition. Transition, Bernardo, Boris. Ils sont endormis là-bas. Hein.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, lié à trois fils, Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, que tu respires, pire. Ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station.
Voilà, ben de retour avec nos invités, donc Jean-Yves et Yad. Alors Jean-Yves, justement,
Je suis là.
On avait dit qu'on te connaissait. Et toi, tu as adhéré à, oui. À Shams France.
Ouais, voilà. Shams Lyon, effectivement.
Ouais. Shams Lyon, oui. Alors,
Shams France à Lyon.
Voilà, oui, on va parler de tout ça.
L'antenne de Lyon, c'est ça.
Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait donner envie d'adhérer à Shams France Lyon, donc?
Alors, excellente question. Au-delà de considérations purement personnelles, c'est à la fois toujours mon implication dans ce qu'on appelle la convergence des luttes. De bien rappeler que la lutte contre l'homophobie, lutte contre la transphobie, c'est également la lutte contre la misogynie, le sexisme et le racisme. Sans aller, bon, je vais pas relancer le débat du racisme qui existe au sein de la communauté LGBT, c'est quand même de rappeler que, bon, effectivement, les problématiques, tout ce qui est l'homophobie, la transphobie, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a un monde qui nous entoure et qu'il y a des personnes qui souffrent de discrimination indépendamment de leur orientation sexuelle. Donc là, c'est très clairement donné à des personnes qui vont souffrir de plusieurs types de discrimination en même temps, de dire qu'on peut être homo, on peut être trans, trans-homo, et on peut également être d'origine maghrébine, parce que nous, effectivement, au centre LGBTI, ben, on a plusieurs personnes, justement, qui sont là pour en témoigner. Et effectivement, c'est mon implication dans Shams, notamment à Lyon, vient de cette prise de conscience de dire, bah oui, mais il y a quand même une partie de notre communauté qui est complètement invisibilisée, qu'on ne voit pas, qui n'existe pas, pour dire ça comme ça, et qui donc ne peut pas prendre la parole. Donc c'est pour ça que quand Yad est arrivé en me proposant justement de fonder cette antenne à Lyon, bah évidemment, moi j'ai sauté sur l'occasion en disant, bah voilà, au moins ça va nous permettre de travailler sur ce point-là, à la fois au sein des associations, donc membres du centre, mais également d'essayer de, en tout cas, on va voir comment ça évolue, mais d'essayer d'atteindre un public qui pour l'instant se sent pas concerné, de dire, c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, justement, de dire, bah voilà, on est homo, mais on est d'origine maghrébine, donc forcément, on a d'autres références culturelles, on réagit différemment, on va pas revendiquer notre homosexualité. C'est un discours qui est beaucoup trop simpliste, de dire, c'est un petit peu plus subtil que ça. Et l'autre raison, bah voilà, c'était de dire, c'est vraiment d'essayer de montrer que, bon, ben bah, moi qui suis pas d'origine maghrébine, je peux quand même investir. Dans ce combat-là, c'est montrer que voilà, c'est on peut se sentir concerné par des problématiques qui, en tout cas, a priori, ne nous concernent pas directement. Voilà.
Très bien. Donc c'est un peu sur cette base-là, en fait, que Shams est né, Yad. C'est-à-dire, il y a un besoin, effectivement, pour la communauté franco-maghrébine, on va dire, d'une telle association.
Bah, en fait,
une demande.
Oui, et là je vais parler des objectifs en fait de l'association.
Donc Shams France.
Shams France.
Tu tiens à bien déterminer que ce sont deux choses tout à fait différentes.
Ben, en fait, Shams France et Shams en Tunisie sont deux associations indépendantes, deux associations différentes en fait.
Différentes parce qu'elles sont dans deux contextes différents.
Elles évoluent dans des contextes différents. Elles partagent certains points communs, une lutte commune en fait. Mais ce sont deux. On est très proches aussi, mais voilà.
D'accord. Oui. Il y a quand même des passerelles, évidemment.
Bureau,
hein.
Chacune.
Oui. J'imagine. Et donc, Shams France est né sur cette constatation qu'il y avait un besoin.
En France, en fait.
En France.
Et en fait, le besoin, c'est avec les Français d'origine maghrébine ou moyenne-orientale, parce qu'on parle. En fait, dans nos statuts, on parle de la région MENA, donc Middle East and North Africa, donc le Moyen-Orient et le Maghreb, donc, pour ne pas dire
Syrie,
arabe,
Liban,
et maghrébin, et rentrer dans les questions d'identité. Enfin bref. Et donc, en fait, il y a aussi ceux qui viennent pour fuir la LGBTI-phobie de l'autre côté, de la Méditerranée. Et que ce soit les demandeurs d'asile, ou voire même certaines personnes qui viennent pour faire leurs études et profite de l'occasion pour rester, pour ne pas avoir à subir.
Pour rester en France, quitte à se retrouver dans une situation illégale à ce moment-là.
Ça dépend après des.
Après leurs études, par exemple.
Après leurs études, bon, beaucoup peuvent faire un changement de statut. Il y a différentes possibilités en fait qui s'offrent à eux. Après, donc, il y a aussi un autre volet que j'ai pas cité. Qui est dans Shams France, ce qu'on essaye de sur lequel on va essayer de travailler davantage d'ailleurs dans Shams France, c'est de travailler en étroite collaboration avec les associations de l'autre côté de la Méditerranée, en fait. Donc de les soutenir, de travailler ensemble, de créer un débat et de faire avancer les choses tous ensemble.
Alors, oui, parce que comme on dit, c'est les petites rivières hein, qui font les grands fleuves et les grands fleuves qui font les océans. C'est vrai que c'est, la base du militantisme, c'est ça, c'est de faire bouger en fait les curseurs en fait. Hein. C'est ce qui s'est passé aussi justement dans les années 50, 60, 70.
Au sein des communautés, c'est ça.
Voilà. Alors, Shams est une association, on l'a dit, à religion, à politique, ça, il n'y a pas de problème. Mais sais-tu qu'avant Shams, il a existé d'autres associations franco-maghrébine LGBTI. On disait pas trop LGBTI à l'époque, on disait gay, lesbienne, on disait gay.
Ils n'allaient même pas dire rien, c'est pas ouais, gay.
est-ce que tu connais l'historique un petit peu des anciennes associations préexistantes?
Oui, mais en fait.
Qui toutes n'existent plus, je crois d'ailleurs.
Oui.
Il n'y en a plus aucune qui existe.
Il y en a une, je crois, qui existe toujours, mais qui travaille.
Différemment.
Pas dans le militantisme.
Parce que dans les années 80-90, moi je me souviens qu'il y a eu au moins de mémoire, je citerai trois associations franco-maghrébines qui étaient basées à Paris, mais qui avaient aussi des antennes dans d'autres grandes villes de France. Et à l'époque, je me souviens très bien du discours tenu par ces associations. Il s'agissait d'une part de créer du lien social entre les avec les personnes d'origine maghrébine. On parlait de l'isolement des LGBT. Donc on disait les gays, les lesbiennes à l'époque, plutôt dans leur propre culture, mais aussi de leur difficulté à s'insérer dans, entre guillemets, la communauté LGBTI. Donc, et je me souviens très bien d'une association qui disait, par exemple, le Marais, parce qu'à l'époque, c'était l'émergence du Marais à Paris. On disait, voilà, nous, quand on est en banlieue, nous, on n'a pas d'argent pour dépenser cet argent au Marais parce que c'est cher, c'est pas pour nous. L'impression qu'il y avait un contexte un peu, je dirais, entre guillemets, lutte des classes ou voilà, je veux dire, nous, on est trop pauvres, on peut pas s'intégrer à la communauté parce que le Marais, etc., il y a de l'argent et nous, on n'est pas, voilà. Et les associations, elles travaillaient beaucoup là-dessus. Est-ce que Shams toujours à ce côté-là rompre d'une part l'isolement des personnes LGBTI au sein même de leur propre de leur famille, de leur groupe,
environnement,
voilà. Mais aussi par rapport à la communauté entre guillemets, en tout cas au monde LGBTI traditionnel, que ce soit commercial, militant, etc.
Je dirais.
Est-ce que c'est les mêmes problématiques aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Il y a de ça, mais il y a aujourd'hui il y a d'autres choses qui rentrent en jeu en fait. Il y a déjà là actuellement on travaille surtout avec des personnes en détresse qui ont par exemple du mal à s'assumer, qui ont des problèmes avec leur famille ou qui ont des problèmes d'ordre juridique ou autre.
Qui sont des personnes qui ont nationalité française. Pas obligatoirement,
mais on est vraiment inclusif en fait. Et même des personnes après on va pas être compétent, je vais dire, sur certaines problématiques, mais on est inclusif et on...
Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux années 80-90, il y a un dossier que vous traitez, qui était moins traité à l'époque, c'est justement les personnes qui, par exemple, les personnes qui sont réfugiées pour raison d'orientation d'identité sexuelle, qui viennent de pays où soit l'homosexualité est pénalisée, soit où elle est réprimée d'une autre façon que par la loi, souvent c'est lié d'ailleurs les deux, et qui viennent demander asile en Europe, par exemple, en disant, voilà, moi je suis dans mon pays en danger parce que je suis homosexuel ou transidentitaire, et je demande, voilà. Et ça, c'est des dossiers, c'est quelque chose que vous prenez en compte. De personnes originaires, donc des régions que tu as citées, le Moyen-Orient, le Maghreb,
oui,
par exemple.
Oui, en fait, mais sur cette partie-là, on travaille avec l'association Lardis, à Paris, donc qui, elle, traite les demandes d'asile. Nous, on essaye de rassembler les informations.
D'accord.
Les personnes, elles viennent vers nous, et après, on les réoriente.
D'accord.
D'ailleurs, en fait, c'est un peu la philosophie de Shams aussi, c'est d'être une passerelle envers les autres associations existantes en France, LGBTI.
Ouais.
En fait, c'est de créer un lien envers ce groupe, en fait, qui bien souvent est coupé, il y a une certaine coupure, en fait, et de faire le lien entre les associations.
Alors, par rapport aux auditeurs, aux auditrices, quel message tu pourrais lancer Shams, par exemple ? Par exemple, est-ce que Shams pourrait dire, vous êtes en difficulté personnelle ou avec votre famille pour des raisons d'homosexualité et vous êtes issu d'un milieu franco-maghrébin, maghrébin, musulman, etc. Venez à nous, on peut vous aider, par exemple ?
Ben, aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on aimerait demander aux personnes, toute personne ayant des difficultés avec son orientation sexuelle ou son identité de genre, en fait, qui est d'origine maghrébine ou arabe, ouais, peut venir nous contacter parce que quand même on a une certaine connaissance de des traditions et de la culture,
oui, bien sûr,
de ces personnes-là. C'est
des
facilités.
Des gens qui vous parleront plus facilement peut-être,
oui,
aussi.
Il y a en fait là, il y a beaucoup qui viennent dans nos permanences parisiennes pour le moment parce qu'à Lyon, on est en train de faire connaître l'association. C'est une autre, enfin, on est dans une autre étape. Mais à Paris, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour rencontrer des personnes qui ont plus ou moins le même parcours qu'elles, pour voir qu'elles ne sont au bout du compte pas seules.
D'accord. Donc c'est des personnes qui peuvent venir pour des raisons personnelles et qui n'ont pas spécifiquement fait, comme on dit, leur coming out, qui ne sont pas outés auprès de leur famille, mm-hmm, mais qui viennent pour des raisons personnelles. Ça peut être aussi des personnes qui, pour X ou X raisons, leur famille, leurs amis, leur entourage a appris de façon fortuite ou par dénonciation ou parce que la personne s'est outée elle-même, mmh, qui est homosexuelle, qui a des problèmes avec ça, son milieu.
Son milieu, oui. Mmh.
Est-ce que le outing homosexuel existe dans le monde arabe ? Voilà, tiens, une question, y compris en France.
C'est très différent, mmh, je dirais. Ça dépend, en fait. Ça dépend des familles, ça, ouais, dépend de, mmh, plusieurs facteurs, en fait.
Mais encore, ouais, une fois, on revient à la religion. On a l'impression que c'est le fait que la religion soit si prégnante dans la culture arabe, franco-maghrébine, même encore maintenant, l'impression que les religions sont un peu les garantes d'une sorte de tradition, d'une forme de perpétuation de tradition, qui, mm-hmm, et c'est là où bah blesse, c'est difficile à cause de ça. Mais c'est valable pour une famille très catholique, par exemple, où un enfant pourrait ne pas vouloir dire à ses parents qu'il est homo parce que c'est pas dans la tradition religieuse catholique. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de problèmes liés à ça ? Est-ce que les problèmes d'homosexualité sont vraiment liés, problèmes ou à transidentité éventuellement, au fait religieux, encore une fois, ou c'est au-delà, c'est...
La religion peut rentrer,
comme on disait en début d'émission. En
fait. Donc, poser problème d'acceptation de l'homosexualité ou de quelle que soit l'orientation ou identité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. Il y a le poids aussi de la famille,
les voisins, les amis,
le qu'en dira-t-on, il y a un certain poids social, en fait, qui fait que ça soit très difficile pour beaucoup de s'accepter, ouais, de s'assumer, etc. Donc aujourd'hui, ce qui nous a amené il y a quelques semaines de lancer, hormis les deux dont j'en parlerai plus tard, les deux permanences mensuelles qu'on a depuis avant, il y a une nouvelle qui vient de s'ajouter, qui est à la Maison des Associations du 3e arrondissement de Paris, qui est une permanence psychologique où il y a des psychologues qui reçoivent des personnes ayant ce besoin-là, ayant besoin d'un suivi psychologique.
Alors, pour faire une petite parenthèse, il existe une association homosexuelle des musulmans de France. Donc là, c'est tout à fait différent de Cham, c'est pas la même optique. C'est des gens qui peuvent aussi apporter des réponses, oui, par rapport à des questionnements vis-à-vis des écrits du Coran.
Oui, on peut réorienter ces gens, les personnes qui ont ces questionnements-là, vers cette association-là ou vers d'autres personnes qui maîtrisent le sujet.
Mais comme vous, c'est pas votre vocation première.
Non.
Vous, c'est plus le côté social, le côté intime aussi peut-être, mais pas sous un biais. Vous n'allez pas leur apporter des réponses tirées dans l'islam, etc. Alors que l'association que je cite, je ne sais pas si vous les connaissez d'ailleurs. L'association, oui, oui. Vous êtes en relation quand même avec eux, vous
avez... Il y a eu une table ronde qu'on a organisée en octobre-novembre 2016, qui était autour de la religion et de l'homosexualité en fait.
Ouais.
Et donc où on a invité et les musulmans.
Ouais.
Et du côté chrétien, David et Jonathan, et le Beit Avrim côté juif, et une militante athée pour que tout le monde soit représenté, pour qu'il y ait un dialogue, un débat, et pour apporter des réponses aux personnes qui ont ces questionnements-là.
Oui. Alors, moi, je serais curieux, un jour, il faudrait que tu m'expliques, moi, je serais vraiment curieux de savoir comment on peut être, par exemple, dans une famille musulmane ou arabe, et faire son outing. Ça doit être quelque chose de fantastique. Faut biaiser, faut faire quoi? Si on a envie de le dire, c'est...
Ben,
je sais pas...
Ça arrive de plus en plus souvent, donc... Je
peux te poser une question personnelle?
Oui, bien sûr.
Tes parents, ta famille sont au courant?
Oui, oui.
D'accord.
Donc, c'était il y a...
Bon, je te demande pas comment t'as fait, mais on imagine, je sais pas, t'as chanté une chanson, par exemple.
Je suis rentré spécialement à Tunis.
D'accord. Bon, très bien. Et ça s'est bien passé.
Oui.
Voilà. Ça, c'est une chose positive. Hein. C'est parfois très difficile aussi dans les autres familles. Il n'y a pas que dans les familles musulmanes. Et ça reste encore difficile dans beaucoup de familles, de toute façon. Hein. Soit musulmane, pas musulmane. Mais bon, c'est vrai qu'on est toujours associé, on associe souvent religion, comme je disais, à une difficulté en plus, quoi, de... Voilà. Religion étant tradition, etc. Donc, à Paris, tu as créé Shams.
J'ai avec
co-créé, co-fondateur.
Oui.
Voilà. Et puis, soudain, tu t'es rendu compte que Paris, c'était pas bien, que Lyon, c'était mieux. Et tu es venu vivre à Lyon. Et tu as décidé, tu t'es dit, à Lyon, il y a aussi un terrain fertile, je dirais, pour l'association. Il y a un besoin, en tout cas, ce qui est tout à fait vrai, à mon avis. Et tu as dit, je vais fonder Shams Lyon. France à Lyon, aussi. Enfin, je vais faire une antenne,
Donc,
régionale.
En fait, c'est ce que je me suis dit. Et l'objectif, en fait, ça serait de reproduire le travail qui a été fait à Paris par l'équipe parisienne, qui fait un excellent travail actuellement. Que ce soit la responsable du pôle femme, que ce soit Yacine le coprésident, que ce soit tous les membres actifs de l'association qui s'occupent des permanences ou qui ont animé par exemple le printemps des associations à Paris ou les événements à venir à Paris ou, donc on aimerait aujourd'hui reproduire ce travail-là à Lyon. Donc ça pourrait être un peu plus difficile au niveau de la communication pour faire connaître l'association. Donc là, c'est le plus gros du travail, je pense, à faire aujourd'hui. Après, dès qu'il y a assez de demandes, on fixera éventuellement des permanences mensuelles. Là, c'est selon le besoin. S'il y a des demandes, on fixe une permanence. Sinon,
Parce que Shams Lyon, même titre que Shams Paris est adhérente du centre LGBTI de Paris, Shams France Lyon est adhérente du centre LGBTI, donc à Lyon.
Oui.
Et donc, à plus ou moins long terme, ou court terme, certainement même, vous voulez proposer des permanences.
Oui, bien sûr. C'est l'objectif principal. D'accord. C'est comme je l'ai dit précédemment. Oui. Donc... C'est le soutien psychologique, le soutien, juridique, parce qu'on est en contact aussi avec le RAVAD, le soutien administratif. D'ailleurs, il y a des discussions actuellement sur l'éventuelle création d'une association pour les demandeurs d'asile, mais à voir...
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Oui.
Donc... C'est l'objectif, ce sont nos objectifs dans un premier temps. Après, on va essayer aussi, pour communiquer, d'organiser des événements, de participer à des événements. Par exemple,
le 26 mai, nous organisons une projection du documentaire dont tu parlais, donc au pays de la démocratie naissante. C'est au centre LGBTI, donc 19 rue des Capucins. C'est à 21h. On suivra certainement par un petit débat, justement.
Oui.
Donc venez nombreux et nombreux, même d'ailleurs, sans forcément, comme je disais tout à l'heure, pas forcément que des personnes d'origine maghrébine, hein, c'est de montrer un soutien, de se montrer impliqué. Après, par contre, je rebondis pour Charles, on n'était pas... Enfin, il va falloir qu'on discute encore sur le lieu où se tiendront les permanences. Là, c'est effectivement, comme tu disais, oui. Yad, voilà, c'est là qu'on voit la différence avec Paris. On sait qu'à Lyon, on a une organisation assez spécifique et d'avoir le centre, donc, en pleine presqu'île, c'est pas certain qu'on arrive à toucher notre public, en fait.
Exactement.
On va voir ça.
Mais en fait, aussi, il n'y a pas que cette difficulté-là. Il y a aussi la difficulté pour une personne qui ne s'assume pas forcément d'aller dans un lieu ouvertement LGBTI.
Avec un drapeau, maintenant.
Avec un drapeau, en plus.
Oui. Ouais, on l'a sorti.
Donc, on a déjà rencontré ce problème à Paris, donc avec nos premières permanences qui étaient au centre LGBTI de France. Et après, on a dû mettre en place une deuxième permanence qui est organisée à la maison des associations du 10e.
En terrain neutre,
où des gens peuvent venir sans crainte.
Et du coup, ici à Lyon, c'est le même débat un peu par rapport au lieu justement des permanences.
On aimerait, oui, trouver un lieu qui soit un peu plus neutre pour un autre public, en fait, parce que il y a les deux publics, il y a deux publics différents et il faut travailler avec tout le monde. Donc,
pour un premier contact, ça peut être pertinent d'avoir justement d'organiser des permanences dans justement effectivement une maison des associations, encore une fois un terrain neutre, et après, comme le disait Yad, quand les personnes en question se sentiront peut-être plus en confiance, pourquoi pas leur proposer de rejoindre au centre, mais d'y aller graduellement en tout cas, leur offrir la possibilité de choisir.
Alors, une petite parenthèse, parce que aussi, je voudrais faire ce que tu as évoqué, le pôle femme, donc Cham, c'est un pôle femme. On parlait de l'invisibilité encore plus forte des lesbiennes dans le monde, dans le MENA, on va dire, puisqu'il faut dire pas ça, donc, en Moyen-Orient, dans les pays maghrébins. Et il y a un pôle femme dans Cachams.
Oui, il y a une responsable pôle femme, Kaou, donc, qui, elle, fait un excellent travail. Donc, l'objectif est de visibiliser...
Et ça, donc, c'est à Paris, évidemment.
Oui.
À Lyon, à terme, ce serait aussi intéressant de pouvoir le faire.
Oui, bien sûr.
Mais l'intérêt d'être au centre LGBTI, c'est de pouvoir justement avoir des interactions avec les autres associations qui peuvent être concernées.
Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels on est très sensible, en fait. Il y a d'un côté la transidentité, donc, parce qu'on reçoit à Paris, donc on reçoit beaucoup de transgenres, de personnes transgenres. Donc, et il y en a de plus en plus. Donc, il y a quelques mois, on a d'ailleurs réussi avec l'ARDIS d'avoir le statut de réfugié pour une trans saoudienne. Donc, un parcours très difficile qui a même été agressé à Paris à plusieurs reprises. Donc, voilà, il y a cette problématique-là. Et il y a aussi le sujet VIH, je pense, est très important et qui est, en fait, dont on ne parle pas beaucoup chez ces personnes, les personnes qu'on cible, en fait. Donc, on n'en parle pas beaucoup et faudra déjà sensibiliser un peu plus les personnes. Il y a un travail de sensibilisation. Il y a aussi une certaine sérophobie qu'il faut combattre. Il faut lutter contre cette sérophobie parce qu'il y a une méconnaissance du VIH. Donc, on aimerait travailler sur ça en collaboration avec deux associations, donc surtout Aide, avec qui on est en contact. Et il y a aussi à Lyon, on a rencontré l'ENIPS, donc il y aura peut-être
des actions
des
ciblées.
Des actions à organiser ensemble afin de travailler sur cette problématique.
Oui. Donc beaucoup de pain sur la planche, hein, c'est bien de le dire, pour Shams France à Lyon. C'est pas pour terminer sur une note triste, mais une personne a été agressée à Marseille récemment, personne d'origine algérienne. Est-ce que c'est une personne qui est un des fondateurs de Shams France?
C'est un ami avant tout, donc Zach, qui a été agressé, violé. Donc,
il a été agressé, c'est une agression homophobe.
Oui. Et donc, on a réussi à trouver un avocat qui s'est porté volontaire pour le représenter, pour le défendre.
Ouais.
Et aujourd'hui, il essaye de se reconstruire comme toute personne.
Ça a été une agression d'une extrême violence, physique et morale, du coup. Enfin, les deux sont liés.
C'était de la torture, hein, c'était deux jours, enfin, c'était une horreur. Hein.
Les auteurs ont été identifiés.
Oui. Et il y a eu aussi une autre agression il y a quelques semaines à Paris d'un réfugié irakien qui est passé par le Liban et qui est arrivé ensuite en France. Donc c'était à Aubervilliers. Et il a été aussi sauvagement agressé par deux individus. C'était une agression homophobe.
D'accord. Bon.
Et c'est une des personnes qu'on a suivies à Paris.
Bien. Ben, l'émission va toucher à son terme. Jean-Yves, est-ce que tu as des annonces à faire?
Oui, j'en ai toujours. Avant de le faire, par contre, j'ai juste en deux secondes pour les auditrices et auditeurs qui se poseraient la question sur le MENA. Une information qui me tient à cœur, c'est pour ceux et celles qui se posent la question pourquoi le Moyen-Orient en France, c'est de rappeler que la Syrie et le Liban étaient des protectorats français. Donc pour celles et ceux qui font un petit rapprochement à ce qui se passe là-bas et la situation en France. Ceci dit, effectivement, donc je rappelle le 26 mai, la projection du documentaire de Shams au pays de la démocratie naissante, donc toujours 21h. Ce samedi, une soirée organisée par le Jardin d'été, donc toujours au centre, hein, soirée ouverte à toutes et à tous, l'entrée est gratuite.
Association transidentitaire.
Alors c'est une soirée, première soirée organisée par l'association effectivement transidentitaire, mais pas que, du Jardin d'été, puisque j'en fais partie. Voilà. Donc voilà, le but c'est vraiment, bon, c'est organisé par des personnes transidentitaires, mais par contre c'est ouvert encore une fois à toutes et à tous. Et donc surtout le 17 mai, donc la journée de l'Ida Hot, donc la journée de lutte mondiale contre l'homophobie et la transphobie, deux événements. Le premier, c'est au Lavoir public, le rapport annuel, présentation du rapport annuel par SOS Homophobie à partir de 18h30, donc ça dure 2h, hein. Et à partir de 20h au centre LGBTI, toujours cette fois-ci, c'est une rencontre avec toutes les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles pour le centre, donc que ce soit par le biais d'une adhésion à des associations ou par le biais d'un travail directement avec l'administration du centre. Voilà, et donc on vous attend nombreuses et nombreux.
Toutes ces informations pourront être prises sur le site du centre LGBTI et aussi sur le site de l'émission. Shams a un site, donc une page Facebook
et un compte Twitter.
Je mettrai tout sur... Il y a une ligne téléphonique éventuellement, une ligne d'appel, pas encore.
Pour le moment,
on contacte à travers la face Facebook ou...
Ou alors l'adresse contact@shamsfrance-france.org.
D'accord.
Ou alors il y a une autre adresse pour Lyon, c'est lyon@shams-6france.org.
Là, il faut absolument buzzer. Hein. Nous, on aime bien buzzer, de toute façon.
Ouais, il faut.
Voilà, donc on va buzzer à mort, hein, pour faire connaître Shams. On mettra toutes les informations aussi sur les pages internet de l'émission, le site, etc. Donc, en tout cas, bon succès pour Shams. J'espère que vous allez être entendus et que des personnes vont à Lyon aussi vous contacter. Des personnes qui en auraient besoin, effectivement. Parce qu'il y en aura certainement.
On va y travailler.
Voilà. Merci Yann, en tout cas, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité, nous avoir invités.
Après, si tu as encore quelque chose à dire, vite fait, 30 secondes. Non, une annonce, un événement.
Il y aura peut-être une présentation de Shams France le 17 juin à Paris. Et
d'accord.
On sera présent aux marches des fiertés parisiennes et lyonnaises.
D'accord, très bien. Avec une grande banderole, comme ça vous serez bien visible. Très bien. Bon, ben merci, on va se quitter. Donc merci Jean-Yves, merci Yad de l'association Shams France à Lyon. Merci Bernardo, merci Boris d'avoir assuré comme des malades l'émission de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission dans un registre complètement différent, une émission musicale. Je n'en dis pas plus, hein. On pourra suivre. Hein.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.